Bonjour, c'est Marie. Bienvenue dans Minute Sexo sur Radio Gamozo.
Aujourd'hui, nous abordons un sujet encore trop méconnu, le plaisir féminin. Avec nous, la sexologue Marie Blondet pour décrypter les idées reçues, lever les tabous et surtout donner des clés pour mieux comprendre et savourer son corps. Bonjour Marie.
Bonjour Lia.
Marie, le plaisir féminin reste encore mal connu, voire mal représenté. Pourquoi, selon toi, le plaisir sexuel des femmes est-il encore entouré de tant de mythes et de méconnaissances ?
Le plaisir sexuel des femmes, il reste tabou par rapport aux injonctions sociétales. En effet, la femme doit choisir son camp parce que la sexualité, elle est souvent abordée d'un point de vue masculin. Par contre, la femme, elle doit choisir son camp, soit nymphomane, soit frigide en fait. La femme qui a envie de faire l'amour, qui a envie de se faire plaisir, elle est vite stigmatisée en nympho. Par contre, la femme qui est un peu en décalage, on va dire, en absence de désir ou d'excitation, elle va être dans la case frigide. Alors bien évidemment, ces mots sont bannis de la profession médicale, mais par contre, ils font encore partie du langage courant. Et ça, moi, je l'entends très, très, très souvent au cabinet. Ouais. Parce qu'au départ, la sexualité était vue et entendue et comprise que par les hommes. Il n'y avait pas du tout de notion de féminité dans le plaisir sexuel.
C'était une question de reproduction, quoi.
Tout à fait.
Ouais. Beaucoup de femmes connaissent leur corps moins que leur partenaire. Quels sont, selon toi, les points clés pour mieux sentir ce qui est agréable ?
Alors, le point clé, c'est la connaissance corporelle. Et ça, je le dis, je pense, tous les jours au cabinet. Alors, oui, pour la femme, c'est plus compliqué de se connaître corporellement parce que son sexe est à l'intérieur. Si je vous dis que sur les tables des lycées, on voit souvent des pénis en érection, tant qu'à faire. Par contre, des vulves, il n'y en a pas. Quand je demande à mon accompagné de dessiner tout simplement son sexe, dans la grande majorité des cas, la femme ne saura pas le dessiner, alors que ça fait quand même partie d'elle. Alors moi, j'ai envie de dire, à chacune d'entre nous de trouver le moment le plus adapté qui soit pour tout simplement se regarder, s'observer dans le miroir et puis dessiner ce qu'on voit. Et mettre déjà des mots sur son sexe, c'est déjà le faire vivre. Oui, décrire précisément ce qu'est le clitoris, les lèvres internes externes, la vulve, etc. Mais pour donner une existence et intégrer le sexe au corps de la femme. Les jeunes ados qui viennent me voir en cabinet, si tu leur demandes de dessiner leur corps ou leur corps sexuel ou leur sexe, il y a des fois, je me retrouve avec un triangle ou un rectangle. Donc c'est, moi je pense, en tant que parent, explore ton corps, tout simplement, comme il est bon pour toi. Tu sais combien de doigts t'as sur la main, qu'est-ce qui se passe, dans ton sexe, si tu es une femme.
Tout à fait. Alors, on entend souvent parler du clitoris, mais ce n'est pas juste un bouton magique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui le rend si central et complexe dans le plaisir féminin, si en tout cas c'est ce que tu en penses ?
Oui, alors c'est pareil, le clitoris, il a été découvert en même temps que la Coupe du Monde en 98, donc là encore une fois, c'est merveilleux quoi. Il a été longtemps banni des livres scolaires, et puis après, il y a encore une grande représentation par rapport à ça, et une fois, on met les femmes dans des cases en disant, il y a la femme qui est soit vaginale, soit clitoridienne.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Sauf que non, tout ça c'est banni. En fait, le clitoris, c'est un organe qui est très sensible parce qu'il est fortement innervé avec plus de 10 000 terminaisons nerveuses. Donc forcément, cette fonction, elle est érogène et orgasmique dès qu'il est stimulé. J'ai envie de dire, est-ce que c'est un bouton magique ? Oui. Maintenant, le plaisir, il est toujours procuré par le clitoris, mais ce qui peut varier, c'est la forme de stimulation. Est-ce que ça va être une stimulation interne ou externe.
Beaucoup de femmes disent qu'elles ont du mal à se détendre et à lâcher prise à cause du quotidien. Là, on parle de la charge mentale. En quoi, justement, cette charge mentale peut-elle parfois bloquer le désir et le plaisir ?
La charge mentale fatigue le cerveau parce qu'elle pense à tout le temps. Et donc, du coup, ça l'épuise. Et puis, encore une fois, il ne faut pas oublier que la libido, c'est cette hormone d'énergie, de vitalité. Et du coup, si elle est épuisée, elle n'a plus l'espace pour aller vers le désir sexuel. Et puis, le stress, le manque de sommeil, l'absence aussi de reconnaissance parfois du partenaire ou de la famille, tout ça peut faire chuter le désir sexuel. En fait, ce qu'il faut bien comprendre dans ce cadre-là, c'est que l'énergie de la femme, l'énergie qui lui permet de bouger autre, mais l'énergie chez l'homme, hein, c'est pareil, hein, l'énergie, elle est placée ailleurs que sur le désir et le plaisir. Elle est placée, par exemple, dans son boulot la journée, dans le fait de s'occuper des enfants, d'aller faire les courses, d'aller faire du sport. Mais en tout cas, elle n'est pas placée là au niveau du désir sexuel. Le désir sexuel, il est sensible à deux facteurs. Il est sensible au manque de sommeil et il est sensible au stress. Donc, s'il y a une surcharge mentale qui est souvent accompagné de stress, forcément, ça va impacter le désir sexuel. Et puis, pareil, au niveau du manque de sommeil, bien souvent, la femme, elle va aller se coucher une fois que la longue liste de tâches va être terminée. Et du coup, encore une fois, il n'y a plus de place à consacrer au désir et au plaisir au moment-là, parce qu'elle est exténuée, en fait. Elle n'a plus d'énergie.
Donc, comment on fait pour pallier ça ?
C'est trouver des moments autre, c'est de trouver des moments en dehors déjà de cette sexualité dans le lit, dans la chambre à coucher, juste avant de dormir. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moments dans la journée où c'est possible ? J'ai lu un article il y a peu de temps qui démontrait que les femmes ont ce désir, cette envie de sexualité, en majeure partie les après-midi. Vers 15h, donc à bon entendeur, voilà. Donc il faut trouver un moment où la femme sera plus libre et pourra consacrer de l'espace, son énergie de désir sexuel au moment-là, mais pas quand elle est complètement fatiguée de sa journée. Ouais.
Et est-ce que le désir, tu dirais qu'il est aussi fluctuant par rapport au cycle ?
Ça, j'ai envie de dire, ça dépend des femmes, ça dépend de leur cycle, ça dépend de la fluctuation au niveau des hormones, etc. Il y a une fluctuation, en règle générale, on va dire, que les femmes, oui, ont une fluctuation de désir selon où elles se situent dans le cycle.
Donc, beaucoup de femmes ressentent qu'elles doivent être à la fois désirables et performantes, hein, le bon stéréotype de la femme. Le discours de femme libérée ne crée-t-il pas parfois un nouveau type de contrainte ? Doit toujours être épanouie sexuellement.
Ça, moi, je l'entends très souvent en consultation. Hein. En fait, la femme, elle a cette injonction être au top, en fait, dans tous les domaines, y compris dans la sexualité. Et moi, j'ai envie de vous dire en tant que femme, mais lâchez-vous la grappe, quoi. Encore une fois, écoutez-vous, faites ce qui est bon pour vous. Être à la recherche permanente d'une sexualité épanouie où tout est beau, etc., c'est encore une fois un acte de performance toujours dans un but. Est-ce que dans une sexualité épanouie, où on prend du plaisir, etc., est-ce qu'il y a une forme de performance et de but ? J'en suis pas sûre. La sexualité, la sensualité est tout sauf un but à atteindre. En fait, encore une fois, c'est un mouvement qui se vit. Et puis, dans sexualité, il y a le mot sensorialité, le mot sensualité, et je vous invite là à inviter la sensualité dans votre quotidien. En tant qu'être humain, on aime bien aussi aller vers les modèles. Quels sont les modèles de la sexualité aujourd'hui qu'on a ? Quelles sont les représentations qu'on en a ? Bien évidemment, elles sont toutes différentes selon qui nous sommes. Mais avant tout, revenez au ressenti, revenez à ce qui est bon pour vous et à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous.
Est-ce que du côté des partenaires, cette pression, elle existe aussi et comment ça peut affecter justement cette complicité et le plaisir partagé ?
Du côté de chez l'homme, alors c'est toujours pareil, hein, là c'est en globalité que je parle, hein, c'est pas cas par cas, mais il peut y avoir une pression, une attente même qui peut se faire sentir au niveau du couple. Il peut y avoir aussi cette quête de performance, d'atteinte d'objectifs. Et là, il y a quelque chose qui est contraire au naturel qui s'installe. Il y a de la tension qui s'installe et la spontanéité est complètement mise hors circuit. Là, j'ai envie de dire, faut changer de schéma. Hein. Sinon, ça va être de la sexualité très routinière, toujours la même chose. Et du coup, ça ne va plus être de la sexualité plaisir.
Épanouissant. Justement, qu'est-ce que l'épanouissement sexuel signifie vraiment ? Est-ce que c'est plutôt une question de fréquence, d'intensité ou finalement, comme tout ce que tu viens de nous dire, de liberté, de plaisir, quoi ?
Alors ça, c'est rigolo, cette question-là, elle est rigolote parce que j'ai écrit mon mémoire de diplôme universitaire sur ce thème. C'était être épanoui dans ses sexualités et son couple tout au long de la vie. Et pour moi, l'épanouissement, il est évidemment très subjectif et il appartient à chacun d'en faire sa propre définition au final. Alors, il est quand même néanmoins défini par plusieurs thèmes, plusieurs dimensions. Il y a le plaisir, l'intimité, la communication et la santé sexuelle qui font partie prenante de l'épanouissement. Dès lors qu'il y a ces dimensions, les individus vont pouvoir être capables d'exprimer leurs désirs, d'explorer leur corps et de vivre vraiment des expériences sexuelles qui vont leur apporter épanouissement et satisfaction.
À ton avis, quels leviers concrets, du coup, peuvent aider les femmes à découvrir ou redécouvrir leur plaisir ?
Encore une fois, savoir comment ça fonctionne. Donc, je repars ce que je disais tout à l'heure, connaître son corps, connaître son sexe, parce que parfois, on vient me voir en cabinet en me disant « je n'arrive pas à prendre de plaisir, j'ai même parfois des douleurs à la pénétration, donc ce qu'on appelle des disparités. » Et là, quand je dis où est-ce que vous avez mal pour aller identifier la douleur, et bien souvent la femme elle me dit je sais pas. La majeure partie des femmes que j'accompagne me disent ça se place en bas, en tout cas c'est très vague. Et encore une fois, pour pouvoir prendre le pouvoir sur votre désir, la clé ça va être la connaissance de votre corps. Plus vous connaîtrez votre corps, plus vous saurez qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce qui vous procure du plaisir. Alors là, on peut parler bien évidemment de la masturbation et puis de la communication aussi avec le ou la partenaire.
Justement, j'ai l'impression que la masturbation féminine reste un petit peu tabou. Pourquoi c'est si difficile d'en parler ou peut-être d'assumer ça ?
Parce que la quasi-totalité des hommes pratiquent la masturbation, c'est crié haut et fort, sauf qu'aujourd'hui encore, autour de la masturbation féminine, il flotte un parfum de culpabilité, j'ai envie de dire. C'est un mot difficile, mais quand je parle de masturbation aux femmes, je leur demande pas forcément tout de suite est-ce que vous vous masturbez, mais plutôt depuis quel âge vous vous masturbez. Parce que c'est un mot pour certaines femmes qui est encore trop agressif. Il faut savoir qu'il y a encore des grandes différences entre la masturbation féminine et masculine. Chez les jeunes, par exemple, entre 14 et 17 ans, il y a 74% des garçons qui se masturbent, contre seulement 48% des filles. Parce que, encore une fois, c'est un mot qui peut paraître tabou et qui n'est pas véhiculé dans la société, tout simplement.
Merci beaucoup, Marie, pour ces éclairages précieux sur le plaisir féminin. Se connaître, explorer, communiquer et oser autant de chemin vers un épanouissement sexuel réel et libérateur. Restez curieuse ou curieux, prenez le temps de vous écouter et surtout, n'oubliez pas, le plaisir, c'est aussi un droit et un apprentissage. À bientôt.
À bientôt, Lia.